Horace Vétier, vous êtes l'un des artistes invités cet automne par le Grenier à sel. Là, nous sommes en face, vos deux réalisations qui se font face à face. Il y a même un dialogue entre les deux. Ce qui vous intéresse dans le concept ou dans l'expression nature impossible?
Alors, ce qui m'intéresse énormément, c'est de combiner un gisement personnel. Là, dans le cas particulier, c'est la constitution d'herbier avec des technologies de pointe. En l'occurrence ici, l'intelligence artificielle, et une projection dans le réel. Et donc là, les deux œuvres qu'on voit au Grenier à sel, c'est une peinture à l'huile et des sculptures en bronze, donc des objets très physiques, mais qui pourtant, pour être réalisés, font intervenir des très hautes technologies.
Cet herbier qui est un peu de nous, c'est un herbier qui est absolument impossible en fait.
Absolument, c'est un ensemble de 128 petites feuilles. Et quand on s'approche de ces feuilles, on se dit bon ok, c'est juste une collecte comme ça qu'on a réalisée, qu'on a représentée, peut-être un peu comme a pu le faire dans le passé Herman de Vries. Là la différence c'est que quand on regarde de plus près, aucune des feuilles n'a de forme qui pourrait survivre dans la nature. On a des tiges qui rebouclent sur elles-mêmes, des très grosses asymétries, des vides parfois. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que même en entraînant une intelligence artificielle sur une base de données avec énormément d'exemples naturels, on n'arrive pas à reconstituer, en tout cas pour le moment, mais l'infinie capacité de la nature à organiser sa survie et à se déployer.
Donc là, on a un herbier en deux dimensions, et derrière moi, il y a une sculpture, donc un travail en trois dimensions. Comment vous est venue l'idée d'associer l'intelligence artificielle, qui a donné cet herbier totalement fantasmatique, et ce travail d'artisanal, je dirais même un travail de mécanique de précision qui est derrière nous?
Alors très simple, en fait, je pense que j'ai une forme, comme beaucoup, hein, une relation un peu d'amour-haine avec la technologie. D'un côté, ça m'excite parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec ces nouveaux outils et on peut repousser les limites de la création. Et en même temps, je me rends bien compte qu'il y a une forme de fatigue des écrans. On a envie de revenir à la nature. Et donc, je trouve que utiliser des médiums comme la peinture à l'huile et en l'occurrence le bronze, ça permet de retrouver une sensualité, une forme tactile. Souvent, moi j'autorise les visiteurs, alors peut-être pas forcément dans cette expo, mais à toucher les statues et pour se rendre compte de cette partie-là. Vous avez raison, c'est une forme d'innovation, puisqu'en travaillant avec le fondeur, on s'est retrouvé face à ces nouvelles formes un peu étonnantes, et le fondeur a dû adapter ses process pour arriver à réaliser la sculpture. Donc c'était un dialogue avec les artisans qui s'est établi.
Artisan, il y a la même étymologie qu'artiste. Comment ça s'est passé lorsque vous êtes allé voir ces professionnels qui ont l'habitude de travailler, qui ont des fonctions plutôt techniques, et que là, tout à coup, vous leur proposez quelque chose de totalement chimérique?
Alors, Horace Vétier, c'est un pseudonyme. Et pourquoi j'ai choisi un pseudonyme? C'est justement pour pouvoir prendre un pas de côté, peut-être mettre un peu l'ego de l'artiste de côté et laisser les gens avec qui je travaille d'habitude s'exprimer. Donc, bien sûr, en tant qu'artiste, c'est moi qui dirige la forme de direction artistique et le narratif, ce que j'ai envie de raconter. En revanche, en travaillant avec, là en l'occurrence, les maîtres ciseleurs, les maîtres patineurs, etc., j'ai pu les laisser s'exprimer. Ils m'ont donné des suggestions pour que les pièces soient plus solides ou alors tiennent mieux dans le temps. Et c'est ça qui est passionnant, c'est ce dialogue qu'on établit. Et je le fais aussi quand je dois sculpter des pièces en marbre ou faire des exécutions en tapisserie, par exemple.
À la base, si j'ai bien compris, vous êtes un rural et non pas un citadin. Le fait d'avoir vécu dans la nature, dans la campagne, dans la montagne, je ne sais pas exactement, est-ce que ça a apporté à votre travail, à votre inspiration?
Ça a apporté une chose principale. Alors, j'ai beaucoup vécu dans la montagne. C'est le lien très fort avec la nature et je vois bien, quand j'y retourne pas, il y a une forme de quelque chose qui se distend et on ne se sent pas forcément ancré dans le corps. Enfin, c'est très, très physique pour moi. Et également, une forme d'amour du silence. Le silence, ça ne me fait pas du tout peur. D'ailleurs, je travaille dans un silence quasi absolu et ça me va très bien. Et donc je trouve qu'aujourd'hui, à l'heure où finalement toutes ces technologies peuvent produire une cacophonie de sons et d'images, moi j'aime bien utiliser ces technologies bien sûr pour m'aider à produire, à créer de la matière première, mais ensuite, dans le silence, on prend les formes intéressantes et voilà.
Au-delà de la qualité et de la richesse esthétique, je dirais que votre travail, ça rend l'intelligence artificielle dont on parle énormément actuellement, ça la rend plutôt sympathique.
Oui, alors c'est gentil de dire ça. J'ai un rapport en fait à la technologie où mon objectif c'est pas du tout qu'on devienne esclave des machines, et c'est même exactement le contraire. J'utilise ça comme des aides de camp. J'ai bien conscience des limites. Et en fait, encore une fois, l'intelligence artificielle, on peut le voir comme une sorte de technologie qui est capable de digérer énormément de données. C'est pas non plus quelque chose qui nous offre une sérendipité absolue. Et en tant qu'humain, c'est à nous de créer des ponts avec des domaines différents. C'est à nous de se cultiver toujours plus pour faire face à ces outils-là. Et c'est assez passionnant. tenants, en fait. Bien sûr, pour moi, ces outils, on peut les voir comme des couteaux très tranchants. Un couteau tranchant, on peut s'en servir pour faire des choses horribles et on peut aussi faire des très bons chirashi. Et c'est un peu la même chose avec les outils comme l'IA.
Vous vous sentez bien ici, dans le grenier à sel, par rapport au voisinage ?
Alors absolument, ce qui m'émerveille dans cette exposition que je découvre avec vous, puisque c'est le premier jour, c'est que toutes les œuvres qu'on y voit sont éminemment technologiques. Elles sont le résultat d'énormément de recherches, y compris les herbiers d'ailleurs, parce que quand on se reprojette à l'époque où on construisait ces herbiers, ne serait-ce que voyager dans une autre ville, c'était déjà une aventure, donc il faut penser à ça. Mais malgré le fait que toutes ces pièces sont très technologiques, il y en a très peu finalement qui sont sur des écrans. Et c'est ça qui est très intéressant dans cette exposition et finalement assez rare, c'est que quand on parle d'art numérique, on s'imagine tout de suite des objets virtuels, voilà, des écrans, de la lumière bleue. Là, si vous venez à cette exposition, vous vous rendez compte que tous les médiums quasiment sont représentés, toutes les années aussi, et c'est tout à fait intéressant. Et donc la dernière chose que je peux dire, c'est que dans l'histoire de l'art, on pourrait croire que l'art numérique, en tout cas l'art génératif, a commencé dans les années 60, ce qui est vrai, hein, ça a commencé à partir de là, mais cette expo montre aussi que les racines, puisque c'est un peu la thématique végétales sont présentes dès le 18e, 19e siècle.